Les nuits de France Culture.
Le climat a une influence immense sur le destin d'un peuple, d'une civilisation, voire sur des événements plus courts, comme le règne d'un monarque, voire même d'une guerre. Sur un plan plus large, d'abord, les civilisations qui évoluent dans des climats chauds, tempérés ou froids, vont développer des techniques et des technologies bien distinctes les unes des autres, qui influeront sur leurs traditions et leur culture. À une échelle plus petite, un hiver trop rude ou un été trop chaud peut également avoir des conséquences dévastatrices. Maladies, famines, inondations, sécheresses, ou encore, pourquoi pas, des révoltes d'un peuple dont la souffrance est devenue trop forte. Pendant longtemps, ces données climatiques, pourtant essentielles pour comprendre l'histoire du monde, furent indisponibles ou ignorées par les historiens. Mais le développement de la climatologie historique est venu changer la donne, et de nombreux travaux interdisciplinaires ont commencé à voir le jour. Dans ce numéro des Chemins de la connaissance, Gilles Lapouge invite l'historien Pierre Janin à se poser la question « Le froid a-t-il une histoire ?» S'ensuit une discussion sur les méthodes historiographiques, mais aussi sur l'effet réel du froid et des fluctuations climatiques sur le destin d'une région ou d'une civilisation. Une émission diffusée pour la première fois le 25 décembre 1979.
Si Pierre Janin est avec nous aujourd'hui, c'est qu'il est un historien excellent d'abord. C'est aussi que, par hasard, l'an dernier, nous nous sommes rencontrés, lui et moi, dans un lieu assez bizarre. C'était l'hiver ou la fin de l'hiver, c'était février, mars peut-être, dans un lieu bizarre qui était l'Islande. Nous nous sommes rencontrés, par coïncidence, à Reykjavik. L'Islande, c'est un pays dans lequel les gens vont de plus en plus, mais ils y vont l'été, le printemps, l'été, et c'est un pays admirable d'ailleurs. En revanche, l'hiver, on ne peut pas dire que l'Islande soit extrêmement fréquentée par les touristes, car c'est un pays dur, c'est un pays de neige et de froid. Pourquoi nous étions là, Pierre Janin et moi? Pour des raisons de travail différentes, mais qui coïncidaient dans le temps. Pierre Janin était là parce qu'il préparait, il travaillait à un film pour la télévision, sur les pays nordiques, puisque Pierre Janin est un historien qui s'intéresse particulièrement aux civilisations du froid, aux civilisations du Nord. Moi, j'étais là pour des raisons voisines, c'est-à-dire que je préparais, je continue de préparer d'ailleurs parce que le temps passe, mais on ne travaille pas beaucoup, un livre sur les problèmes de la neige. Nous nous sommes donc rencontrés, je me souviens d'un repas, c'était donc en février-mars dernier à Reykjavik, il y avait des Français, il y avait des Islandais, nous avons parlé, et au cours du repas, le problème dont nous allons parler aujourd'hui a été abordé entre Pierre Janin et moi, c'est-à-dire les rapports entre l'histoire, la vie des sociétés, l'aventure des hommes, et le froid, et la neige, et le gel. Je ne sais pas ce que nous avons dit, il me semble, dans mon souvenir, ça n'était pas trop mal, mais enfin, mon souvenir, il est sans doute un peu frelaté parce que c'était Reykjavik, il y avait autour de nous ces maisons pleines de neige, il y avait le vent et les tourbillons de la neige dans le vent, il y avait une espèce d'allure poétique autour de cette conversation qui, dans mon souvenir, l'a fait très très belle. Aujourd'hui, donc, nous nous retrouvons à Paris. Il n'y a pas de froid, il n'y a pas de neige autour de nous. Néanmoins, on va essayer, si vous voulez, de reprendre un petit peu les thèmes que nous avions rapidement esquissés ce jour-là. Et ces thèmes, c'est cela. C'est les relations réelles ou imaginaires, vraies ou hypothétiques, entre le froid, la neige, le gel et l'histoire des hommes. Je vais vous poser une question, si vous voulez. Je suis très frappé de considérer que les historiens contemporains font de très très belles études sur le climat, sur le froid. Par exemple, il y a un livre célèbre et qui est celui de Le Roi Ladurie, je crois que ça s'appelle L'histoire du climat, quelque chose comme ça, chez Flammarion. D'autres études dans les annales, j'ai vu tout un ensemble il y a peu de temps. C'est passionnant. Ils vous disent, il faisait froid à telle époque, il y avait telle courbe de température, il y a eu cette série de grands gels pendant 10 ans, pendant 15 ans. Tout ça est tout à fait remarquable. Et en même temps, il y a une espèce de puritanisme historique, d'austérité. Ils refusent de sortir de la sphère du froid. C'est-à-dire qu'ils étudient le froid en tant que tel. Ils disent, il faisait froid cette année-là, il faisait pas froid cette année-là, etc. Mais ils refusent en général de s'interroger sur les conséquences, sur les effets que telle glaciation, tel gel plutôt, a sur la mentalité des hommes, sur la vie quotidienne des hommes et peut-être même sur la grande histoire. Alors c'est ce problème d'abord théorique, si vous voulez, que je voudrais vous poser, Pierre Janin.
Vous avez raison, en effet, de souligner que les études sont toutes assez récentes par leur généralisation de climatologie historique se montrent très prudentes et s'efforcent de s'enfermer dans un domaine spécialisé. La cause de ceci est probablement double. D'une part, dans le passé, il suffirait d'évoquer le nom de Montesquieu, des esprits éminents ont eu tendance à chercher des explications climatiques un peu faciles pour montrer les différences qui pouvaient exister entre les populations des pays froids, des pays chauds, leur tempérament social ou politique, et naturellement, ces grandes hypothèses demandaient à être revues d'assez près.
Donc une espèce de retour de bâton, là. On a trop fait, donc on n'en fait pas assez aujourd'hui, d'une certaine manière.
Oui, il y a d'abord le stade des hypothèses philosophiques au sens du XVIIIe siècle, des très grandes vues, très larges, et puis ensuite, il s'agit de voir un peu plus précisément comment se présentent les choses. Et du point de vue de l'histoire du climat, je crois que ce qui a contribué beaucoup à son développement depuis quelques dizaines d'années, c'est une rencontre entre les préoccupations de météorologistes. Préoccupation à la fois scientifique et pratique, parce qu'après tout, la météorologie, c'est aussi de la prévision. Ces gens-là ayant donc besoin de constituer des séries chronologiques de température, de pluviosité, de tous les phénomènes qui composent ce complexe qu'est le temps. Et d'autre part, préoccupation des historiens cherchant à expliquer des fluctuations à long terme dans la vie matérielle des sociétés et tout particulièrement en ce qui concerne la vie agricole, la production rurale, les conditions du travail à la campagne. Et effectivement, les premiers résultats très intéressants qui ont été atteints ont donné lieu quelquefois à un enthousiasme un peu rapide sur la possibilité d'expliquer par des fluctuations climatiques ayant une périodicité de l'ordre d'un siècle, d'un demi-siècle, des fluctuations économiques, l'alternance de périodes plutôt favorables ou plutôt défavorables en ce qui concerne les récoltes et par conséquent le volume disponible des ressources. Depuis, naturellement, comme dans toute espèce de discipline scientifique qui se constitue, les techniques se diversifient et se compliquent et l'on en est arrivé, naturellement, à avoir une panoplie extraordinaire de moyens d'investigation pour connaître le climat d'époque reculée, y compris d'époque où il n'y avait pas d'observation avec des instruments, pas de mesure des températures, pas de mesure des précipitations, mais où, d'après ce que contiennent les chroniques ou d'autres textes à caractère purement descriptif, on peut reconstituer la chronique climatique, savoir que il y a eu un hiver particulièrement froid, un été particulièrement pluvieux, etc. Et alors, à mesure que des séries sont constituées, bon, elles proviennent d'observations de ce genre, elles proviennent aussi d'observations indirectes par l'emploi, justement, des techniques de la glaciologie, recul ou avancée des glaciers, et puis d'autres techniques encore plus sophistiquées, comme l'analyse des pollens, ou comme l'analyse de la croissance des arbres, tout ce qui entre dans ce qu'on appelle la dendrochronologie. Et avec cela, on est arrivé, effectivement, à pouvoir reconstituer une chronologie relativement assurée de périodes où, dans un espace donné, l'hiver a été plus froid ou au contraire moins rigoureux. Mais de là à en tirer des explications directes dans l'ordre économique, il y a évidemment un pas qui est de plus en plus difficile de franchir.
Alors, avant de tenter d'interroger ce problème, c'est-à-dire les effets du climat, du froid en particulier, sur la vie des hommes, sur l'économie, est-ce que vous pouvez nous dire tout de même, à très grands traits, ce qu'on peut se faire comme image du climat des siècles passés ?
Eh bien, je crois
disons des siècles historiques, ne remontons pas à la préhistoire pour l'instant.
Oui, effectivement, c'est un point sur lequel il convient d'insister. Quand on parle de fluctuations climatiques, il faut distinguer deux types de rythmes. Chacun sait plus ou moins qu'il y a eu, avant l'apparition de l'homme, ou dans les premiers temps de l'humanité, mais tout à fait dans la préhistoire, des fluctuations climatiques extrêmement importantes, des périodes de climat très chaud, de climat très froid. Les glaciers ont couvert un moment une beaucoup plus grande partie du globe terrestre que ce n'est le cas actuellement. Ceci sont vraiment des choses qui se mesurent à l'échelle, non pas de siècles, mais de millénaires, et des phénomènes de variation d'une très grande ampleur.
L'homme étant déjà là.
Ah oui, puisque l'homme est contemporain, enfin des premières glaciations, ça dépend naturellement des endroits.
C'est cela.
Mais dans le nord, il est remonté après la glaciation, à mesure que les glaciers se retiraient. Mais la climatologie historique, c'est une affaire de variations beaucoup plus menues. Ce ne sont pas des écarts aussi grands, mais on arrive maintenant à être à peu près d'accord sur le fait, par exemple, qu'à la fin du Moyen-Âge, il y a eu un refroidissement dans notre hémisphère nord, dont une des conséquences, une des manifestations qu'on peut saisir de manière assez précise, c'est que sur les bords même de l'espace habitable, là où des hommes au haut Moyen-Âge étaient allés s'installer dans des terres véritablement peu hospitalières, le Groenland, il y a eu difficultés de plus en plus grandes à vivre, et à la limite au XVe siècle, les descendants des Vikings qui s'étaient installés au Groenland n'ont plus pu vivre dans ce climat plus froid. Et on a retrouvé effectivement des gens littéralement congelés, portant d'ailleurs des costumes qui étaient conformes à la mode des cours en Occident à cette époque.
Chaussures à la poulaine, par exemple. On peut scientifiquement considérer que la fin de la colonisation des Vikings au Groenland a été motivée, provoquée par la vague de froid.
Il y a eu probablement comme adjuvant, si je peux m'exprimer ainsi, aussi une offensive des Esquimaux, qui eux étaient une population parfaitement adaptée.
Oui, mais enfin, c'est le même problème.
Mais
quand même.
En tout cas, il est absolument certain que, au moment où disparaît l'humanité d'origine scandinave au Groenland, elle ne se réimplante qu'au XVIIIe siècle, c'est en relation avec une offensive, disons, séculaire ou semi-séculaire du froid. Et plus près de nous, les historiens du climat ont coutume de parler d'un petit âge glaciaire, dont on place le début soit à la fin du XVIe siècle ou un peu plus tard, mais enfin qui couvrirait une bonne partie du XVIIe siècle. C'est même à partir de là qu'on a beaucoup discuté pour essayer de mettre en rapport les phases défavorables, les phases de dépression à long terme de l'économie de la vie rurale, avec même à la limite tendance à la décroissance démographique, et puis ces phases de refroidissement. Le petit âge glaciaire, c'est un concept familier, non pas un concept parfaitement clair et parfaitement identique pour tous ceux qui s'en servent, naturellement.
C'est cela. Et le premier âge glaciaire, enfin, je ne sais pas si on appelle cela comme ça scientifiquement, celui auquel vous faisiez allusion à propos du Groenland, c'était fin 15e, début 16e, je crois.
Ah, non, ça commence déjà au cours du 14e siècle. Il y a un lien là qui est très difficile, parce que bon, la documentation est tout de même un peu moins abondante et moins claire, mais un lien qui peut être suggéré avec d'autres causes, la grande crise du 14e siècle, épidémie, peste noire, etc.
C'est-à-dire pas seulement dans les pays du Nord, mais également dans l'ensemble de l'Europe occidentale. Je veux
exactement
dire, ces grandes variations climatiques dont vous parlez, elles ne sont pas sur l'Islande, sur la Norvège, elles sont tenir compte de l'ensemble du monde européen de cette époque.
Ah, certainement, parce que les études qu'on peut faire sur les avancées ou les reculs des glaciers, c'est en particulier en Europe centrale, enfin les glaciers des Alpes, qui permettent de mesurer l'avance ou le recul à certaines époques.
C'est cela. Donc, alors, pour clarifier vraiment d'une façon peu nuancée, mais pour que les choses soient accessibles, il y aurait eu deux pointes de froid, d'une part le 14e, 15e, et ensuite le 17e, et après quoi il y aurait une reprise de climat un peu plus chaud. Fin 18e.
C'est en gros, effectivement, ce schéma, avec, en plus, naturellement, des variations secondaires
bien sûr,
moins importantes, mais c'est là-dessus que le débat porte beaucoup, sur ces deux phases.
Bon, alors, donc, pour aujourd'hui, nous avons eu d'abord les problèmes un petit peu méthodologiques, et puis le schéma général de ce que fut notre climat dans les époques historiques. Ce que je voudrais, si vous voulez, la prochaine fois que nous nous rencontrerons, c'est que nous entrions un petit peu dans le détail et que nous tâchions de savoir si ces variations climatiques, à non pas très longue durée, mais à moyenne durée, ont pu avoir des conséquences perceptibles dans la vie des sociétés, dans l'habitat, dans la vie des hommes et dans les mentalités.
C'était « Le froid a-t-il une histoire ?», un numéro des Chemins de la connaissance de Gilles Lapouge avec l'historien Pierre Janin, diffusé pour la première fois le 25 décembre 1979.